On avait une grande maison. Ça faisait une maison de 10 pièces. Pour notre nombreuse progéniture, c'était bien. Donc, elle était toute en longueur. D'ailleurs, quand on avait déposé le permis de construire, puisque c'était Hélène et moi qui avions fait les plans, le gars à la mairie, ouais, il disait, votre maison, elle ressemble à une longère. Je dis, ben oui, ben nous, ça, si on a envie d'habiter dans une longère, pourquoi pas, quoi. Voilà. Et elle était exposée vers le sud et on avait planté un pied de vigne. Et j'avais lu dans la Bible un texte que je vais partager avec vous ce soir, où Jésus parle de la taille de la vigne. Alors, une année, bon, je sais pas, elle avait peut-être 3, 4 ans à peu près, elle commençait à être un petit peu gaillarde. Bon, elle produisait beaucoup de feuilles, en fait. Et on s'est dit, tiens, on aimerait bien voir du raisin. Alors, on a suivi un petit peu les instructions bibliques, hein, comme quoi, des fois, la parole de Dieu nous éclaire. Puis on a taillé. Alors là, c'est moi qui ai taillé, c'est pas Hélène. Si vous voulez, la différence entre Hélène et moi quand on taille, c'est que moi j'en laisse un petit peu, alors qu'Hélène n'en laisse pas beaucoup. Alors j'en ai laissé un petit peu et on a eu une vendange, mais alors super, super, super vendange. Et je me suis dit, tiens, c'est bien de tailler une vigne. Alors je vous amène dans un texte qui est dans Jean chapitre 15. Verset premier, et on va lire ensemble. Alors, c'est Jésus qui nous parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes... Ça n'a pas tourné encore. Hein? Voilà, quand ça tournera, vous me le direz parce que j'ai pas envie que vous... Je suis le cep, verset 5, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous portez de fruits, c'est ainsi que, que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, ce soir, je vous parlerai sur le cep et le sarment. Alors, je sais pas, vous avez sous les yeux une vigne, hein, c'est pas un platane, vous avez bien compris. Vous avez le cep qui monte verticalement. D'ailleurs, un cep de vigne, c'est toujours un petit peu noueux. Puis après, vous avez les sarments, hein, qui sont les, si vous voulez, comme les branches qui sont rattachées au cep. Puis alors là, vous avez une super grappe qu'on voit de raisin noir. Et je trouve que le raisin, c'est vraiment un bon fruit. Vous aimez le raisin? Je trouve que c'est vraiment un fruit qui est délicieux, qui est hyper facile à manger. C'est pas comme l'orange, on s'en met plein quand on la mange, donc ça coule. Le cep et les sarments. Alors, Jésus a porté son enseignement en se servant de paraboles. On le connaît bien, et quand on est familier des Écritures, on le voit bien. Il se servait d'images, il servait de comparaisons. Et pour parler du royaume de Dieu, il va se servir de paraboles, souvent liées à la vie courante. Par exemple, il va prendre l'image d'un semeur. Alors, nous, c'est vrai que des semeurs, on n'en voit plus beaucoup, hein, surtout dans nos régions avec des grandes plaines, etc., etc. Mais bon, il y avait à l'époque de Jésus, il n'y avait pas les machines qu'il y a maintenant. Et le semeur sortait avec sa semence, il balançait la semence dans les champs. Et les gens étaient familiers, bien sûr, de cette image. Quand Jésus veut nous parler du royaume de Dieu, il va nous parler d'un enfant, par exemple, et de devenir comme un enfant. À un moment donné, il va parler du royaume de Dieu en évoquant un patron qui a une crise avec des employés. Vous connaissez l'histoire, hein? Un patron se met les syndicats à dos parce qu'il veut payer tous ses employés pareil. Et puis il y en a, ils sont énervés à cause de ça. C'est une femme qui cherche un objet qu'elle a perdu. C'est un berger avec ses brebis. Enfin, on se rend compte qu'il y a des images de la vie courante que Jésus va utiliser pour nous illustrer, pour nous parler sur le royaume de Dieu. Et dans cette parabole, Jésus va parler d'un vigneron en nous disant, le vigneron, c'est Dieu, c'est mon Père céleste, qui va s'occuper d'un cep de vigne. Le cep, c'est Jésus lui-même. Et les sarments, c'est qui? C'est nous. Les sarments, c'est nous. Et les fruits qui sont portés, bien c'est ce que nous portons au travers de nos vies. Alors ce texte va parler prophétiquement de l'union de Christ avec ses disciples, lorsque, après la résurrection et son ascension, il sera présent dans le cœur de chacun de ses disciples. Je dirais quelque part, ce texte est prophétique et d'une certaine manière, ce cep, ce sarment, ce vigneron, va évoquer quelque chose de supérieur qui se passera, cette intimité avec Dieu, cette relation avec Dieu qui se fera malgré le départ de Jésus au travers du ministère du Saint-Esprit. Ce texte parle prophétiquement de l'union de Christ avec ses disciples lorsque, après sa résurrection et son ascension, il sera présent dans le cœur de chaque disciple par son esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, disait Jésus. Parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur, il demeurera en vous. Il viendra sur vous et il demeurera en vous. Et nous avons dans nos vies le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous accompagne, et en plus il est sur nous pour nous conduire dans notre ministère. Alors, trois leçons se dégagent de cette lecture. Premièrement, c'est la position du croyant. Là où nous en sommes. Alors, nous sommes en Christ. Et cela va apparaître six fois dans notre texte. Nous le lirons, nous allons voir cela, six fois dans notre texte. Deuxièmement, nous avons une responsabilité en tant que croyants. Demeurer dans cette position. C'est bien d'avoir une position. Là, vous êtes assis et vous avez une position. Si vous vous levez, vous n'êtes plus assis. Donc votre responsabilité consiste à rester assis le temps de la réunion, le temps que je vous parle de cet enseignement de ce soir. Donc nous demeurons en Christ et nous demeurons dans cette position. Cela apparaît cinq fois dans le texte. Et puis bien, il y a un résultat de cette position, c'est de porter du fruit. Et cela, dans le texte que nous avons lu, apparaît six fois. Alors, je récapitule. Position du croyant en Christ. Nous sommes en Christ. C'est notre position. Notre responsabilité, c'est de demeurer dans cette position. Cela apparaît six fois dans notre texte. Et le résultat de cette position, c'est de porter du fruit. Et cela apparaît six fois dans le texte. Alors, pour parler de notre position, la position du croyant en Christ, donc six fois dans le texte. Le terme en moi est répété six fois, faisant que Jésus insiste. Il insiste sur cette notion qui se retrouve d'ailleurs dans tout le Nouveau Testament. Par exemple, vous connaissez ce fameux texte de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un étant Christ, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un le sait? Voilà, quand vous allez tous dire en même temps, c'est Christophe qui va le dire. Vas-y, Christophe. Passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, Léonel Christophe. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la condition, c'est d'être en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Et d'ailleurs, si vous êtes familier de l'Épître aux Éphésiens, le premier chapitre, d'ailleurs, le thème de l'Épître aux Éphésiens, si vous voulez, c'est être en Christ. Et le premier chapitre va insister sur cette notion d'être en Jésus, d'être en Christ. Et donc, ça s'est développé sous différents mots, mais c'est le thème central est là, d'être en Christ. Et cela apparaît 11 fois dans le premier chapitre. Alors, la parabole. La parabole, donc nous la lisons au verset 1er. Le cep désigne le serment. Pardon. Le cep désigne le tronc et les serments. Si vous voulez, ils forment un ensemble. C'est comme notre corps. Notre corps, ben les yeux en font partie, notre petit doigt en fait partie. Ça fait partie de notre corps. Et quand on parle du corps de Christ, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas bouger ma tablette. Ça vous arrive, ça, les gars ? Le tsev va désigner le corps et les sarments, ça va former un ensemble, tout comme l'expression « le corps de Christ » qui va parler de l'Église. Nous formons un seul corps, un seul corps. Et quand nous parlons de l'Église, nous parlons de chacun de nous qui faisons partie de ce corps. Christ, c'est la tête. Même si vous m'aimez beaucoup, même si vous dites il est sympa, c'est le meilleur pasteur que nous ayons jamais eu, mais vous en aurez un meilleur bientôt. La tête, ce n'est pas moi. La tête, c'est Jésus. Nous faisons partie du corps de Christ. Jésus, c'est la tête. Et chacun de nous est membre de ce corps. Le sarment tire la sève du cep, comme le croyant tire de Jésus la vie dont il a besoin. Jésus crucifié, glorifié, nous tirons notre vie de lui de manière à pouvoir marcher avec lui, d'être en lui. Le vigneron, je vous disais tout à l'heure, c'est Dieu. Le cep lui appartient. Excusez-moi, je vous choquais peut-être, mais il est libre d'en faire ce qu'il veut. Le vigneron, c'est Dieu. Le vigneron, c'est Dieu. Le cep lui appartient, il en prend soin. Il coupe, il taille, il émonde la vigne, tout comme l'Église est pour lui un corps spirituel où Jésus est la tête et chacun de nous un des membres du corps. Dieu s'occupe de tout le corps. Tout. Il n'y a pas des gens qui sont mieux vus que d'autres. Il n'y a pas des gens dont le Seigneur va prendre un soin plus attentif. Parfois, on dira à quelqu'un, mais dis donc, toi, le Seigneur t'aime. Hein? Non, mais, excusez-moi, mais le Seigneur nous aime tous pareil. Même le plus détestable d'entre nous, tiens, regardez-vous dans une glace si vous en avez une, et dites-vous, toi, tu es le plus détestable, mais le Seigneur t'aime aussi. Même Gérald, qui est le plus affreux, le Seigneur l'aime aussi. Le Seigneur nous aime tous et il prend soin de chacun d'entre nous. Donc, c'est notre position. Deuxièmement, la responsabilité du croyant, c'est de demeurer dans cette position. Mais comment demeurer dans cette position ? En demeurant dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, en aimant les choses de Dieu, en goûtant les choses de Dieu, en prenant soin des uns, des autres, en apprenant aussi à nous nourrir de ce que le Seigneur nous communique. Vous savez, si je me coupe de du cep, je suis perdu. Je ne peux porter aucun fruit et c'est la cata. Demeurer dans cette position. Et cela va apparaître 5 fois dans notre texte. Mais nous sommes tous responsables de notre relation avec Dieu. Je ne peux pas être responsable de la relation avec Dieu de Jonathan, ni de Calvina. Chacun d'entre nous est responsable de sa relation avec le Seigneur. Et dans la mesure où nous sommes responsables de notre relation avec Dieu, eh bien, nous mettons tout en œuvre pour que ça se passe bien. Parfois, on se dit, oui, mais moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je vais me couper de l'Église, je vais prendre la distance par rapport à l'Église. C'est une erreur. Nous avons besoin des uns et des autres. Je vais vous surprendre, mais j'ai besoin de vous. Tout comme, je suppose, vous avez besoin de moi, et chacun d'entre nous a besoin de l'un et de l'autre. Et dans cette position de rester en Christ, nous avons besoin de cette tête, de ce cep. Nous avons besoin de ce vigneron. Et cela va nous donner une responsabilité, mais aussi un résultat dans cette position, c'est-à-dire porter du fruit. Alors, on va essayer de réfléchir un peu. Qu'est-ce que c'est que de porter du fruit? Est-ce que vous connaissez un fruit dont la Bible nous parle? Est-ce que vous en connaissez un? Non, il nous est parlé du fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce que quelqu'un le connaît? Alors, on y va. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. J'en ai 9. Alors, si je manque d'amour, je vais en chercher auprès de qui? Du vigneron qui s'occupe de la vigne, auprès de Dieu. Et l'amour qui est dans le corps du Christ, qui est répandu par le Saint-Esprit dans notre vie, va nous permettre de porter ce fruit. Des fois, on se dit, ouais, mais là, en ce moment, ce n'est pas trop la période de porter du fruit. Savez-vous qu'on doit porter du fruit avec Dieu, même quand ce n'est pas la saison? Qu'est-ce qu'il y aurait comme saison négative pour porter du fruit? Par exemple, vous êtes en voiture. Tiens, hier, il nous est arrivé un truc. Hein. On le raconte? On va vous raconter. On filait, on venait de la pastorale. On est passé un super moment, une bonne réunion, bonne monde pastorale. Et sur l'autoroute devant nous, il y a eu un accident. Mais nous, l'accident, on ne l'a pas vu, c'était un peu loin. Et un bouchon nous était signalé. Notre voiture, on s'arrête. C'est l'un qui conduisait. On papotait tranquillement. Notre voiture n'a pas bougé pendant 1h30. Pas bougé. Tantôt, elle faisait un petit saut de puce de quelques mètres. Hein. Pendant 1h30. On se commençait à être un petit peu long. En fait, l'autoroute était complètement bloquée. C'était un camion qui s'était mis en travers. Donc, il empiétait sur les deux voies. Et puis, il y avait une partie du camion qui était également sur l'autoroute d'à côté. C'était vraiment l'accident. Tu en as entendu parler, non, cet accident? Non. Hier soir, vers 17h à peu près. Alors, comment? Il a couvert l'autoroute. Hein. Et donc ils ont ouvert une barrière une barrière sur le côté là pour qu'on puisse sortir. Et avant qu'on sorte, donc un trajet qui prend en général 1h30 entre Tours et chez nous, on a mis 3h30. On en avait marre. Bon, on s'est pas énervé, mais il y a des moments, notamment en voiture, on pourrait s'énerver. Je dirais là. Là, c'est le moment de s'énerver, c'est le moment de crier, c'est le moment de se mettre en boule. Ou bien quelqu'un vous fait une sale blague en voiture, ça vous arrive, ça? Quelqu'un qui brutalement vous grille un stop, un feu, autre chose, une priorité. Vous lui en voulez et vous avez des tas de noms d'oiseaux qui vous viennent à la bouche. C'est là que nous devons porter le fruit de l'esprit qui est la patience. Je dois voir un petit peu après les automobilistes en ce moment, parce que dimanche, j'ai déjà un petit peu parlé de ça. Et c'est vrai que parfois, nos pulsions de comportement au volant témoignent de ce que nous sommes réellement. Restez calme. Portez le fruit d'esprit même dans ce moment-là. C'est quelqu'un qui vous énerve, qui vous agace. Et au lieu d'avoir des sentiments d'amour et de porter le fruit d'esprit qui est l'amour, vous auriez peut-être tendance à vous insurger, vous énerver, etc. Restez calme, restez tranquille. Le fruit d'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Et quand nous développons cette relation avec Dieu, être en Christ et demeurer dans cette relation, dans cette position, alors nous portons du fruit. Donc, on a vu le fruit d'esprit qui se décline par 9. Est-ce qu'il y a un autre fruit dont la Bible vous parle? Dans les Éphésiens, au chapitre 5, il nous est demandé d'être des enfants de lumière et d'avoir de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité. Être dans la lumière de Christ, demeurer dans cette lumière, doit nous aider à porter du fruit qui sera à la gloire de notre Dieu. Et je crois que ce sont des éléments qui sont vraiment très, très, très importants, que nous devons apprendre à cultiver, à vivre notre relation avec Dieu. C'est le thème de ce mois-ci. Et nous comprenons cette position, cette responsabilité et le résultat que ça va générer. Je vais conclure, puisque mes notes sont terminées là. Je vais conclure par. Je sais ce qui est passé, en fait. C'est moi qui ai fait une erreur. Je vais conclure par un texte qui est le psaume numéro 1. Est-ce que quelqu'un l'aurait sous les yeux? Psaume numéro 1. Ah ben si, je l'ai de toute façon. Je l'ai sur le vieux là-dessus. Je l'ai là. Heureux l'homme et la femme. Le jeune homme. Jeune fille, heureux l'homme qui ne marche pas selon les voies des hommes sans Dieu, mais qui trouve son plaisir en Dieu et dans sa parole. Il est comme un arbre qui porte du fruit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Mes frères et mes sœurs, bonne année. Portez du fruit. Je souhaite que tout ce que vous allez faire, vous puissiez le réussir. C'est biblique. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans l'échec, nous sommes destinés à vivre dans la réussite. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais que faut-il faire? Il faut être en Dieu. Il faut être en Christ. Il faut demeurer dans les choses de Dieu, porter sa parole, manifester sa grâce, de manière à porter du fruit. Avez-vous compris ce que j'ai voulu dire? Avez-vous des questions à me poser? Je vais essayer d'y répondre si je peux. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon retour. Reposez-vous bien, que Dieu vous bénisse, et jeudi soir, nous écouterons Dorian. Bon retour.